J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego.
Bonjour, bienvenue à PFM, au siège des Têtes Argentées, prénom Jean-Claude, mais je ne vous dirai pas mon âge parce que tous mes copains ici au siège, ils me demandent presque tous les jours mon âge, je ne leur dis jamais.
D'accord.
Je ne peux pas leur dire mon âge parce que, comprenez, je suis déjà né une année bissextile, alors c'est très compliqué de savoir son âge. Il faut consulter l'horloge astronomique, alors bon, c'est impossible, quoi.
J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Jean-Claude est un sacré personnage. Il fait partie de la confrérie des Têtes Argentées. Alors, je m'explique. Tous les matins, lui et sa bande de copains se réunissent chez leur buraliste préféré, Anthony, alias Jésus pour les intimes, qui tient son commerce Le Régent, place de la Vaquerie à Arras. Tous les matins, ils refont le monde à leur manière et discutent en toute convivialité des sujets qui fâchent, parfois même saugrenus. Et c'est au cœur de cette ambiance, devant une bonne goutte de jus, que j'ai rencontré Jean-Claude pour un entretien plutôt émouvant et qui s'inscrit dans le cadre de notre série de portraits de retraités pour Radio PFM. On évoque avec lui son parcours jusqu'à la retraite, à la fois fait de désillusions mais aussi d'espoir. Il est souvent fataliste dans ses propos mais garde un œil ouvert sur le monde et la société qui l'entoure.
Avec ma femme, j'ai foutu le camp, parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là.
Est-ce que vous pouvez me dire exactement à quel âge vous avez commencé à travailler et qu'est-ce que vous faisiez comme métier ?
Bah, vous savez, je suis très âgé. Hein. À mon âge, on aidait ses parents, donc on travaillait déjà, mais c'était un boulanger, mon père, et donc on l'aidait. Mais on n'était pas déclaré. Ma mère, qui travaillait aussi dedans, n'était pas déclarée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas eu de pension par la suite. J'ai véritablement commencé à travailler à 18 ans.
Et vous faisiez quoi, du coup,
de cet âge-là ?
Toujours dans la boulangerie ?
Non, absolument pas. Non. Mais il y a des gens qui voulaient que parce qu'on m'appelait toujours « petit boulanger », et vous comprenez ce que ça veut dire, hein, parce que ici, vous êtes au siège des Têtes Argentées, et on parle patois. Attention, hein, patois du Ternois, hein. Partois de l'Artois et Ternois. Mmh. Bon, quelquefois, il y a des égarés du Vimeux qui viennent aussi, mais bon. Non, j'ai pas continué dans la boulangerie. Ma mère, elle voulait pas. Je suis rentré dans l'éducation nationale. J'ai mal tourné, je crois. Je n'avais pas été longtemps assez longtemps à l'école, mais j'ai été recruté quand même par l'éducation nationale. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai démissionné. Je suis parti. Et après, à ce moment-là, je suis rentré dans la grande administration. Et jusqu'à la retraite, j'ai été dans la grande administration.
Et c'était quoi exactement ?
Oh ben, j'étais d'abord dans des services qui s'occupaient de l'emploi, et puis après je suis allé au ministère du travail, forcément. Mais j'ai jamais été un conseiller politique. C'est pour ça que j'ai vu pendant toute la fin de ma carrière défiler tous les ministres. Mais j'ai terminé comme ça.
Alors,
et j'allais tous les jours prendre le train à l'époque où il n'y avait pas encore le TGV.
Quel souvenir vous en gardez justement de ce travail ?
Excellent.
Il doit y avoir quand même des anecdotes un peu croustillantes si vous avez croisé des ministres.
Oh, non. J'ai été déçu de l'éducation nationale. C'est pour ça que ma fille, elle a voulu être enseignante pour voir ce que c'était. Mais j'ai été très déçu de ça. Donc
Et c'est quoi cette déception ? C'est par rapport à quoi ? C'est par rapport au travail effectué ? Par rapport à ce qu'on vous demandait ou...
C'est un peu et beaucoup d'autres choses. Je crois que il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup. Le respect des enseignants. Ça existait à cette époque-là. Je sais que ça n'existe plus, plus vraiment aujourd'hui. Et puis, Oh, c'était assez marrant, je crois, de voir. C'était dans un lycée de filles, de jeunes filles, on disait lycée de jeunes filles. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs on disait pas le lycée des jeunes garçons. Hein, un lycée de garçons, mais le lycée des jeunes filles. Bon, une semaine en blouse rose, une semaine en blouse bleue, ça, c'était super. Et puis, je crois que c'est l'ambiance générale. Bon, il faut dire que j'ai vécu à ce moment-là la situation de mai 68, qui a été, à mon avis, un désastre pour l'éducation nationale.
Au travers de votre parcours, justement, comment vous voyez votre travail au sein soit de la grande administration, comme vous me l'avez dit, ou soit au niveau de l'éducation nationale? Quel regard vous portez justement, peut-être éventuellement, sur l'éducation nationale aujourd'hui qui part encore une fois à volo?
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Moi, je reconnais bien volontiers que, à mon époque, si je peux parler comme ça, les instituteurs, on appelait ça instituteurs, ils gagnaient deux fois et demi, peut-être trois fois, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, deux fois et demi ou trois fois le SMIC. Ouais. Aujourd'hui, bon, je vous laisse conclure. Je crois que ça a été un désastre. Je crois que on n'a pas su prendre le problème à bras-le-corps, peut-être, au niveau dirigeant. Mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on disait que c'était le plus beau métier du monde, l'enseignant, et je peux le confirmer. Mais quand on connaît l'évolution qu'on a connue, c'est un désastre. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma fille qui est dans l'enseignement, elle s'interroge beaucoup pour démissionner après plus de 30 ans d'enseignant. Elle envisage de se démissionner parce qu'elle n'en peut plus. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors c'est dommage parce que l'avenir, c'est les jeunes. Et les jeunes, bon, aujourd'hui, ça ne va pas, quoi. En plus, ils manifestent.
Alors, si je peux me permettre de vous demander ça, vous touchez combien de retraites ?
Oh ben vous savez, ça, tous mes copains des têtes argentées me le demandent régulièrement. Vous savez, justement ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à finir le mois avec la petite pension que j'ai. Donc j'ai vraiment une petite pension, mais tous les copains de la tête argentée m'aident à finir le mois. Donc,
il y a une solidarité qui s'est installée en fait.
Ah, ici, il y a une très grande solidarité, mais vous savez... Ça s'appelle le régent ici, Monsieur Anthony qui est le tenancier, nous accueille bien volontiers, mais il va bientôt changer, vous allez avoir la primeur, il va bientôt changer le titre, il ne va plus s'appeler le régent, mais la maison du petit bonheur.
D'accord.
Et donc la maison du petit bonheur, eh bien, ça veut dire qu'on se fait plaisir, et tous les jours, parce que notre association se réunit tous les jours. Pas avec tous les membres, parce que c'est trop petit pour les réunir.
Mais du coup, c'est une association officielle ou officieuse ?
Oh, ben c'est tout à fait officiel, hein. Tout à fait officiel, mais on déclare pas combien on a d'adhérents, parce qu'il paraît que... Enfin, il y a des mauvaises langues qui disent que faut payer après quand on a trop d'adhérents.
D'accord. Et vous l'avez eu à quel âge, votre retraite, vous ? Ah, je vais devoir vous demander votre âge. Hein.
Alors, bon, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de la retraite.
Ah, mais c'est le but.
Non. Voyez-vous, c'est une discussion qu'on a souvent entre nous. Hein. Les retraités, les invisibles, les inodores, les incolores, les nantis, on n'en parle jamais. Mais, à longueur de chaînes d'infos, de radio, peut-être pas PFM, on parle de la retraite. Donc, voyez-vous, nous, on aime parler des retraités. Alors, vous me demandez depuis quand je suis retraité ? Ben, écoutez, 65 ans, j'avais 65 ans, et si j'avais eu trois enfants, j'aurais pu partir à 67 ans. à l'époque.
D'accord.
Mais le règlement ne m'y autorisait pas parce que je n'avais pas eu 3 enfants.
Ah, mais ça, je ne savais pas ça.
Ah, mais vous savez, à l'époque, vous savez, aujourd'hui, on parle. Je vous parlais des jeunes tout à l'heure qui manifestent. Mais les jeunes qui disent. Qui ont à peine 20 ans, qui disent, même des tout jeunes, dans les manifestations, mais c'est insupportable de travailler jusqu'à 64 ans.
Justement, c'était une question aussi que je voulais vous poser. Comment vous la voyez, vous, cette réforme, vous qui êtes déjà retraité? Parce qu'il y a vraiment une grogne populaire qui s'est soulevée pour ça. Et vous en pensez quoi, vous, votre regard là-dessus?
Vous savez, ça, il y a beaucoup à dire. Bon. Vous savez, la première chose qui me vient en tête, c'est, je vous dis tout à l'heure que je touchais une petite pension, hein, parce que j'ai pas été à l'école, j'étais à l'école là, chez Courjour, avec ma copain là qui vient de partir. Hein, mais nous, dans le cadre de la réforme, les petites pensions, elles vont être augmentées. Bon, écoutez, je suis désolé de dire ça, ça va peut-être choquer, hein, mais c'est ça que je vois, donc c'est déjà pas mal. Je pense surtout à ceux qui touchent, mais vraiment, des très très petites pensions.
C'est peut-être le point positif de cette réforme, justement, c'est que ces petites retraites vont être augmentées.
Oui, c'est ça. Donc c'est le premier point que je vois sur la réforme. Maintenant, moi, je suis offusqué d'entendre tout ce que j'entends. Je suis offusqué, mais ça rejoint beaucoup de problèmes dans notre société. On respecte plus, à l'occasion de cette réforme, on ne respecte plus les institutions, on ne respecte plus. C'est plein d'incivilités. J'entendais encore dernièrement qu'il y avait des effigies de tous les sens. Pour moi, la réforme. C'est des trucs qu'il faut faire, et il y en aura encore d'autres, vous savez, bon, je serai peut-être mort lors de la prochaine, mais vu mon âge, mon grand âge, mais je vous le dis sincèrement, il y en a encore d'autres et beaucoup d'autres. Donc c'est pour ça qu'il fallait que ça se fasse. Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut s'y faire.
Mais beaucoup disent justement que cette réforme, il fallait peut-être la faire, mais elle a été mal expliquée et mal exploitée dans son sens premier, finalement.
Vous avez sans doute raison, monsieur. Mais vous savez, c'est un sujet. Comment expliquer à quelqu'un qui va devoir travailler plus longtemps? Vous savez, je ne suis pas un spécialiste des explications à donner, mais comment expliquer ça, vous savez? Bon, peut-être qu'ils n'ont pas su l'expliquer, peut-être qu'ils se sont pris de travers, comme on dit, mais sans doute, une erreur de méthode, une erreur de communication, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on connaît le résultat aujourd'hui.
Mais c'est surtout pour ceux qui ont un travail pénible, qui travaillent dans le bâtiment, etc. Ils se voient mal travailler au marteau-piqueur encore à 64 ans, par exemple. Ceux qui ont des carrières courtes, parce que si c'est des carrières longues, ils partiront, évidemment. Mais quand on travaille un peu plus tard, voilà, comment... C'est ça, en fait, le problème.
Oui, nous sommes bien d'accord, mais je veux dire, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes concernant le travail en disant que la réforme des retraites va arranger tout ça. Faut pas se tromper de sujet. Le travail, c'est sûr, je vous parlais de mes parents, ma mère n'a pas eu de retraite parce que à cette époque-là, on n'était pas déclaré. Les femmes de fermiers qui travaillaient dans le village, là, elles n'étaient pas déclarées. Et quand elles sont arrivées en retraite, il n'y avait rien. Bon, je veux dire, alors tout ça, ça a commencé à se régler, mais c'est pas la retraite en elle-même. C'est le travail, c'est l'organisation du travail. Alors peut-être qu'il fallait, certains le disent, beaucoup plus expérimentés que moi, disent qu'il aurait fallu travailler en amont de la réforme des retraites, la question d'organisation du travail, les horaires, les métiers pénibles, les reconversions. Chacun peut comprendre qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire ça pendant 50 ans, mais de tout temps, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent encore aujourd'hui, qui ont 65, 67, 70 ans. On en voit dans tous les journaux qui écrivent. Ce sont des retraités d'aujourd'hui, mais bon, ils continuent à travailler parce que, non pas qu'ils ont des petites pensions, pas forcément. Certains, c'est parce qu'ils ont des petites pensions. Mais d'autres, c'est parce qu'ils disent le travail, c'est une source de bonheur. L'échange avec les autres, les copains au travail, c'est inoubliable. Donc, oui, c'est un peu ça, quoi.
Quand vous êtes parti à la retraite, comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y avait une appréhension? Parce que beaucoup de gens se disent, il va y avoir un vide. Qu'est-ce que je vais faire après? À quoi je vais servir? Est-ce que vous l'avez vécu comme un soulagement ou plutôt comme, voilà, c'est terminé, je ne travaille plus, je vais aller à la retraite et maintenant je vais essayer de m'occuper autrement?
Ben écoutez, je vais vous parler franchement. Mais je le fais depuis le début de notre interview,
tout monsieur. Tout à fait.
J'étais persuadé pendant ma vie professionnelle que je n'atteindrai jamais l'âge de la retraite. Par contre, ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'était dans la tête comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que certains prennent des précautions toute leur vie de prendre des retraites complémentaires ou je ne sais quoi pour améliorer leur revenu à une époque. Moi, je m'y pensais à ça. Donc, ça m'est arrivé un jour. J'étais en même temps content de pouvoir être... vous savez, quand je travaillais à Paris, je prenais le train tous les jours, avant le TGV. Hein. Donc, 6h15, ici, 6h14, à la gare d'Arras. J'attendais ce moment pour faire ouf. Mais j'ai quitté avec regret tous mes collègues parce que, bon, ma foi, je...
Il y a une certaine forme de nostalgie, finalement.
Il y en a quand même une petite forme de nostalgie. Hein. Oui. Non, sans blaguer, je crois que d'abord, il y a une petite nostalgie parce que on nous a expliqué beaucoup de choses pendant toute notre vie. Nos parents, nos amis, nos voisins. Faut travailler. Hein, on n'a rien sans rien, comme on dit. Ça passe, et puis tu verras, un jour, tu pourras enfin te reposer. Donc, de la nostalgie, mais en ce même temps, on est un peu content quand même. Hein.
Et enfin, comment vous occupez pendant la retraite? Qu'est-ce que vous faites? Parce que, bon, c'est vrai que là, on vous voit ici un peu tous les matins, il faut refaire un peu le monde avec votre association de tête argentée. Comment vous la vivez parce que beaucoup de gens s'inscrivent dans des associations, font du bénévolat, etc. Vous, vous faites quoi exactement?
Je continue à vous parler franchement, c'est mon cas, rien d'autre. Hein. J'ai vécu 20 ans de retraite exceptionnelle, et puis tout s'est brisé au décès de mon épouse. Pendant ces 20 années-là, c'était un rêve, on voyageait beaucoup, on allait par-ci, par-là, on voyait nos enfants et tout, on allait souvent en bord de mer, à l'île de Ré, pour ne rien vous cacher. En période de la saison. On est allé pour la première fois quand il y avait le pont, parce que ma femme, elle voulait pas qu'on prenne un bateau pour y aller. Mais, et même deux fois par an, donc... c'était vraiment... C'est très très bien. Et puis mon épouse a disparu brutalement et rapidement pendant un dernier séjour sur l'île de Ré. Alors là, tout s'écroule. Et c'est à ce moment-là que notre tenancier, notre buraliste préféré, nous accueillit tous les jours. Enfin, je dis préféré quelquefois, il n'est pas trop gentil, parce qu'il nous traite de vieux séniles, vieux vieillards.
Mais c'est vrai. mais c'est vrai.
Ouais.
Il faut vous Arsoul. Dépêcher, monsieur, la maison de retraite vous attend.
Arsoul.
La maison de retraite vous attend,
oui.
S'il vous plaît,
Arsoul.
Monsieur.
Arsoul. Donc, il nous accueille tous les jours, et je pense que je n'étais pas seul dans ce cas-là. Mm-hmm. Encore il n'y a pas longtemps parmi nous, parce qu'il y en a qui disparaissent tous les ans, forcément. Il y en a encore un qui me disait, moi, quand je viens ici, alors on reste pas toute la matinée, hein. D'ailleurs, le tenancier, là, il n'accepterait pas, hein. Il nous met dehors à ce moment-là. Mais dès qu'on a fini de boire une goutte de jus avec lui puis tous les autres, et qu'on s'est raconté un certain nombre d'histoires en patois, hein, j'ai essayé de parler un peu français, mais c'est dommage que vous n'êtes pas avec notre président, là, qu'on appelle aussi M. Larousse, parce qu'il sait tout en patois. Y en a un qui me disait, c'est ma bouffée d'oxygène quand je viens rencontrer les autres têtes argentées. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Quand un jour je dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Mmh. Ben, la seule chose que je fais, c'est de venir ici à 7h15 du matin, bon, jusqu'à 8h, 8h30. Ça fait déjà beaucoup. Il y avait beaucoup de tasses de jus, de tarte au chuc, et puis de tarte au libouli. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais non d'une pipe, moi quand je sors d'ici, je rentre chez moi, je ne bouge plus. Depuis que j'ai eu connu le décès de mon épouse, et 2 ans après, j'ai été très gravement malade. J'ai entrouvert une porte. D'ailleurs, tous les copains m'ont dit, qu'est-ce que c'est là derrière, quand la porte s'ouvre. Ouais, j'ai failli mourir. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, elle s'est ouverte, mais elle s'est refermée, donc j'ai pas pu voir, je suis désolé. Ils m'ont dit, t'es un matheux, tu l'as vu, tu veux pas noter. Bon, mais j'ai comme ça. Mais c'est vrai que je rentre chez moi, je veux plus bouger. D'ailleurs, mes filles ont entrepris un truc et ont dit, tu pourras plus faire ton ménage. Donc à partir de ce moment-là, elles m'ont pris en charge complètement. Il y a une femme de ménage qui vient, elle me dit, tu peux plus cuisiner. Donc on m'apporte des repas dès que j'ai pu remanger, parce que quand j'ai été gravement malade, je ne pouvais plus avaler, donc je ne pouvais pas manger. J'avais perdu des dizaines de kilos. J'ose pas redire, mais le tenancier là, qui venait me voir tous les jours, quand même, il pourrait vous le confirmer. Et mais je fais des mots croisés, je regarde beaucoup le sport à la télévision, j'ai découvert un tas de sports. J'allais souvent assister à des matchs de foot, de basket, ici à Reims, waterpolo, rugby, j'étais un fan de tout ça. Mais j'ai découvert une chaîne qui s'appelle L'Équipe, je crois.
Ah, bah donc vous connaissez maintenant le biathlon ?
Je connais le biathlon.
Je suis fan de biathlon, moi.
C'est vrai. Ah, oui. Je vous félicite, parce que si vous êtes peut-être fan parce que vous en faites.
Ah non, 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 j'aurais très bien. J'aurais voulu en faire. Mais c'était un sport que j'aurais bien pratiqué.
C'est sensationnel. Mais c'est pas le seul sport que j'ai découvert. Bon, il y a des sports.
La pétanque aussi. Il y a des...
la pétanque un petit peu. Le bûcheronnage, non, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, ou bien les auto-tamponneuses, je ne sais plus comment on appelle.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Qu'est-ce que ça savon ?
Qu'est-ce que ça savon,
ouais. Bon, là, je suis un peu américain. Non, mais en général, j'ai découvert la gymnastique aussi. Des trucs formidables. Et donc, ça m'occupe beaucoup. Et les mots croisés. Les mots croisés.
C'est important aussi pour...
J'en fais à terre la rigou, comme dirait l'autre. Attends, nous on a soif, hein, tu peux nous remettre une goutte de jus. C'est vrai, oh, vous voyez comme.
Ah ouais,
c'est un ange. Bon, certains disent que c'est un petit Jésus.
Oui, oui, c'est un
ange. Vous l'avez déjà entendu, hein.
Ouais, ouais.
Mais c'est un ange. Hein. C'est un ange. Et alors le personnel, aux petits soins avec nous. Aux petits soins avec nous.
Ben merci beaucoup. Et puis on vous souhaite bonne continuation au sein de cette association.
Ben écoutez, là, vous êtes arrivé au moment où on s'est séparés. Tout à l'heure, je vous ai déjà dit, on ne peut pas être tous là parce que c'est petit. Mais ce matin, là, à 7h15, 7h30, on était 10 ici. Ah oui. Bon, alors là, il y a le coiffeur, il est pas encore tête argentée, mais il est accepté temporairement parce que, bon, il nous apporte quelquefois des friandises.
C'est presque...
Le dimanche, c'est exceptionnel, parce qu'il y en a encore plus. Et il nous apporte, dimanche, il nous apporte du pâté, de l'andouille, etc. Donc,
vous ne mangez pas ça au matin quand même?
Comment?
Vous ne mangez pas ça le matin quand même?
Ce qu'on déguste surtout, c'est la tarte au maroilles. Tarte au maroilles, le dimanche matin, à 7h30 du matin, dans le café, c'est formidable. Ben non, on est d'ici ou bien on n'y est pas, hein? C'est quoi alors?
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuat nec mergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.